Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui c'est donc moi qui me chargera du podcast, et non ce n'est pas un poisson d'avril en retard. Et bien sûr nous allons accueillir un membre qui n'est pas tout le temps là, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir, ce membre est Mamie Lamy.
Salut tout le monde.
Comment ça va alors?
Bah ça va écoute, hein, au Québec tout va bien.
Ah pas tant mieux alors. Et donc le tyran n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il est parti faire, hein. Encore en train de regarder ses petits mangas. Mordren, avec les petites anglaises et tout ça, bref, nous divagons. Alors, le sommaire de cette semaine, nous allons donc parler de Kinji Inafune, qui parle de l'industrie du vidéo japonaise. Ensuite, les DRM, qui ne sont pas viables pour l'industrie du jeu vidéo, selon EA. Après, nous allons aborder le cas d'Activision, qui licencie 40 employés de chez Haimun Studio, alors que le jeu n'est pas encore sorti, bah bravo. Mickey qui licencie chez LucasArts. On va faire aussi un petit point sur la saga Metal Gear Solid. Et après nous parlerons bien sûr du jeu du moment, ainsi que du point culture. Alors nous allons donc commencer par Kenji Inafune. Travaillé avant chez Capcom, il avait fait les séries telles que Megaman, Onimusha. Maintenant, il fait quoi déjà Kenji Inafune en fait?
Ouais, il a monté un studio indé il me semble.
Parce qu'il avait fait Dead Rising 2.
Oui, et il bosse sur le 3 je crois actuellement.
Et ces déclarations sont, moi je trouve, assez justes. Hein. Donc ce qu'il nous dit, c'est que j'espère que les développeurs japonais sont en train de briser cette stagnation. Toutefois, la réalité n'est pas aussi bonne que ce que je souhaite. Je vois qu'ils commencent à être conscients des problèmes et qu'ils doivent faire quelque chose. Ils savent qu'ils doivent en apprendre plus sur des jeux occidentaux et créer des jeux qui se vendront mieux sur le marché occidental. Cependant, ils ne savent pas quoi faire ou comment le faire. Et aussi, il ajoute, tant que les jeux japonais ne trusteront pas les charts du classement mondial, ça sera encore un gros problème. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Bah écoute, il a résumé le problème du Japon depuis un moment. Le Japon, c'est, on va dire, les pionniers dans beaucoup de genres dans le jeu vidéo. Mais je pense qu'ils ont pas su évoluer. Ils sont, comme il le dit, hein, ils ont voulu faire des jeux pour le Japon et pour les Japonais sans tenir compte. Parce que bon, les Japonais, tout le monde le sait, ont leur fierté. Ils ont pas voulu apprendre des développeurs occidentaux, et c'est vrai à peu près pour tous, mais je mettrai une petite exception sur Square Enix, et notamment les derniers Final Fantasy sortis, qui sont certes très très différents des Final Fantasy que les fans adorent, du genre le 7, le 8, le 9, etc. Mais ils essayent, à ce niveau-là, c'est les seuls hein, à ma connaissance en tout cas, qui essayent de s'occidentaliser un petit peu, tout en gardant leurs propres pattes. Donc d'essayer de faire un nouveau jeu vidéo japonais.
Alors,
mais sinon, il a raison.
Ce que tu dis avec Square Enix, je suis pas d'accord, parce que Square Enix regarde Final Fantasy XIII, c'est un des moins vendus de la série, hein, par
c'est
rapport aux épisodes 7, 8, 9, 10, qui sont vendus 2 à 3 fois plus, certains épisodes. Je trouve que moi, vraiment, les développeurs japonais qui sont en force, au début de la génération, on avait Capcom, qui avait compris comment ça marchait un petit peu les jeux vidéo occidentaux. La Sega Resident Evil, c'est clairement basé sur du long métrage, par exemple, américain. Mais le problème, c'est que au début de cette génération, ils maîtrisaient bien la Xbox 360, la PlayStation 3, ils n'ont pas eu trop de problèmes là-dessus. Mais après, on a vu des jeux qui étaient de moins en moins bons selon les années qui passaient. Konami, qui est aussi sur le déclin avec Pro Evolution Soccer, qui s'est fait passer devant par FIFA. C'est quasiment la même chose qui a été créée sur PlayStation 2 et ça a pas beaucoup évolué. Même Metal Gear Solid 4, il était une petite déception parce que voilà, je te parle juste en termes de gameplay là. Hein. C'était assez...
D'accord.
Tu vois l'IA, le mec tu te planques derrière lui, tu peux passer à 2 mètres sans qu'il te voit. Enfin c'était pas... Voilà, il y avait des gros problèmes. Donc j'espère que avec la génération qui va arriver, ils vont revenir un peu sur le devant de la scène comme ils étaient un peu les maîtres dans les années 90 et 2000. Aussi, sur le marché japonais, il y a beaucoup de jeux, sur PSP, etc., ou même sur 3DS, qui ne voient jamais le jour chez nous. Des JRPG, tout ça, qui, pour le coup, changent de Final Fantasy, tout ça. Et malheureusement, il y a peu d'éditeurs qui prennent le risque de les éditer chez nous. On a très peu de jeux japonais qui arrivent sur nos contrées. Par exemple, le dernier jeu qui était mon coup de cœur japonais, c'était Catherine.
Ouais.
Après, j'ai pas eu trop de jeux qui m'ont vraiment marqué sur cette génération en termes de jeux japonais.
Oui, non, mais... C'est vrai, d'un certain côté, et finalement, ce que tu dis, ça appuie ce que dit Keiji Inafune, c'est que les jeux, tu sais, tu parlais des JRPG, etc., qui sortent jamais chez nous.
Quelle déception.
Mais c'est parce que, justement, c'est des jeux pour les Japonais, et c'est des jeux, certains Français aimeraient y jouer, mais ils sont pas fous, dans le sens où ils savent que le gros des joueurs occidentaux, c'est ceux qui achètent... comme on dit annuellement le nouveau FIFA et le nouveau code et la nouvelle extension de WoW, etc. C'est les mêmes. Et c'est pas du tout le même esprit qu'un JRPG où tu tapes 100 heures de farm. Bon, certes, moi j'adore hein, ça, ce genre de jeu, mais voilà, c'est un public restreint qui a l'esprit un peu plus ouvert et un peu moins, on va dire, faut que je fonce, j'ai 6 heures de gameplay, il faut que je fonce jusqu'à la fin comme un bourrin. Parce que les JRPG, c'est des jeux quand même très compliqués, montés sur des petites subtilités de gameplay qui sont pas forcément à la portée de tout le monde. C'est pour ça qu'ils savent que ça vendra pas. Et mais c'est pour ça aussi, à un moment, ils parlent de l'illusion que se font les développeurs japonais à dire que le jeu vidéo japonais se porte bien. Et c'est parce que là, moi, je pense qu'il y a quand même un très gros phénomène de repli sur soi, le Japon là actuellement. Il a un très gros problème de repli sur soi et que ils ont peut-être juste pour le moment pas envie de développer des jeux pour tout le monde. Ils développent pour eux. C'est bien connu par exemple, la Xbox 360 au Japon c'est n'importe quoi, ils ont dû en vendre 4 à tout péter. Et ben ils cherchent pas à développer des grosses franchises là-dessus. Même si ils savent qu'à l'Occident, par exemple, Final Fantasy, en mettant sur Xbox 360, ça fait deux fois plus de ventes. Enfin en théorie en tout cas. Ils savent qu'au Japon, voilà, et je pense que c'est vraiment le problème, c'est que là, pour le moment, ils sont sur eux, ils disent, tiens, on va développer pour le Japon, et puis, parce que c'est comme ça qu'on fait depuis toujours, on n'évolue pas, comme tu disais, on n'évolue pas dans le gameplay, on n'évolue pas, nanana, puis ben écoute, après, les ventes, tant pis, hein. C'est, voilà, je pense que c'est juste, ils ont un ego peut-être qui a été un petit peu gonflé par le fait qu'ils ont été les patrons très longtemps, et ils veulent pas comprendre que, ben, il y a les petits nouveaux qui sont en train de les écraser. Voilà, BioWare pour ne citer que lui.
Ouais, hein, enfin, il y en a tellement d'autres qui sont été mis sur le devant de la scène cette année et enfin depuis cette génération de consoles plutôt, que voilà, ça va faire beaucoup de travail pour les développeurs japonais. Mais bon, là apparemment Konami avec leur nouveau moteur, le Fox Engine, que j'ai pu voir, qui a l'air bluffant, j'espère que il y aura du regain d'intérêt et qu'on aura des productions de plus en plus léchées. Et par exemple, comme on disait sur que le JRPG c'était un marché de niche, je suis d'accord, mais regarde à l'époque le raz-de-marée que ça avait provoqué Final Fantasy VII sur PlayStation 1 quand c'est sorti en Europe, ils vont directement à quasiment 8 millions d'exemplaires. Voilà, c'était alors qu'avant on connaissait pas trop ce type de jeu là non plus, tu vois. Nous en Europe, on n'avait pas eu tous les Final Fantasy qui étaient sortis. Enfin, je crois que d'ailleurs non, même c'était le premier Final Fantasy qui est sorti chez nous. Dragon Quest, je t'en parle même pas. C'était un genre nouveau et donc ça fait il y a toujours un, moi je pense qu'il y a un marché. Par exemple sur 3DS, le coût de développement c'est pas le même qu'un jeu triple A. On pourrait avoir au moins une localisation anglaise pour profiter au mieux du jeu. De toute façon, en plus de ça, la 3DS, je crois qu'elle est zonée, donc
c'est ça.
Donc voilà, c'est pour faire l'import export, tant pis. Donc nous allons parler maintenant de Electronic Arts qui apparemment, on décide de faire marche arrière sur les DRM suite à la tollée qui s'est mangé SimCity. Et donc c'est Franck Guibaud, donc le responsable des labels chez Electronic Arts, qui revient sur les DRM et qui dit: ce n'est pas la réalité, j'étais mêlé à toutes ces réunions sur SimCity, les DRM n'ont jamais été abordés. Vous ne faites pas un mémo parce que vous pensez aux DRM, vous le faites pour concevoir une expérience massivement multijoueur. Les DRM sont un échec en termes de stratégie, une impasse, ce n'est pas une stratégie viable pour le jeu vidéo. Bon bah, on est content que tu te lâches sur le micro de Game Industry, c'est bien, mais voilà, pourquoi ce retournement de situation? Parce que les gens ont gueulé, le DRM, ça casse plus les couilles aux gens qu'autre chose. Qu'est-ce que tu en penses toi sur ce point-là?
J'ai toujours été contre.
Ah, je connais personne qui a été
pour. Toujours... Oui, ben bah, comme tout le monde, j'ai toujours été contre tout ce qui peut réduire le jeu vidéo à un simple objet marketing. Le DRM en tête de liste, les DLC en second. On parle des DRM. Les DRM, le problème, c'est que d'une, c'était vraiment réducteur. Tout le monde, au moment où c'est apparu, ça fait déjà une dizaine d'années que ça existe, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, dans ces eaux-là, l'un des premiers et des plus marquants que j'ai connus, c'était sur Assassin's Creed 2, d'ailleurs. Parce qu'il marchait pas bien. Et en fait, le problème, c'est que voilà, par exemple, si j'ai envie de jouer, Moi j'ai un ordinateur portable, hein. Si j'ai envie de jouer à Assassin's Creed 2 à l'époque, que j'ai acheté le jeu, hein, tout va bien à ce niveau-là, je mets ma galette dans le lecteur, hop, je lance, et malheureusement là j'ai pas de wifi là, dans le coin, je suis dans le train, imaginons, mais il n'y a pas de wifi. Eh ben, je peux pas jouer. Mais c'est quand même, moi je trouve ça quand même formidable, quelque part, les jeux auxquels on ne peut pas jouer. C'est quand même, moi je trouve, voilà, on a acheté un jeu, en plus 60 €, bon sur PC c'est un peu moins cher, mais imaginons 60 € et on ne peut pas jouer. J'ai jamais bien compris le principe. Alors certes, c'est censé être contre le piratage au départ, mais ça marche pas, parce que les pirates maintenant sont tellement balèzes qu'un DRM, ils te le font sauter en quoi, 6 heures de temps? Tout péter, 6 heures de temps. Et puis finalement, bah, c'est juste, ça fait juste chier ceux qui achètent. Et au final, souvent, ce genre de jeu marche mieux pour ceux qui le piratent. Donc en fait, ça, à mon sens, l'effet inverse. Parce que je sais pas si toi, tu te l'es déjà entendu dire ou quoi que ce soit. La plupart du temps, t'es là, ah, putain, mon jeu marche pas. Et puis t'as le mec qui l'a piraté à côté. Ah bon, bah moi j'y joue déjà depuis 2 heures.
Ou même des fois une semaine
Tu
à
fais,
l'avance.
ok. Semaine avant la sortie, t'es là, tu fais, bon, bah écoute, c'est vrai que du coup, t'as pas envie d'acheter, tu te dis, merde, j'ai acheté un jeu qui m'empêche de jouer, alors que je peux avoir la version piratée gratos, c'est triste à dire, moi je suis pas pour le piratage, enfin, en tout cas, je veux pas le pousser, le piratage, mais tu peux l'avoir gratos, peut-être même une semaine avant la sortie, et il est fonctionnel. Bon, voilà,
L'ironie
c'est
du
ça.
sort.
Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, un monde de jeux vidéo sans DRM, c'est déjà un monde avec moins de piratage, paradoxalement.
C'est sûr que ouais, plus tu mettras de contraintes aux joueurs, surtout qui nuisent aux joueurs, et que bah, le pirate s'en sort mieux que celui qui paye son jeu, c'est un peu du foutage de gueule, hein. En plus de ça, je pense qu'Electronic Arts sont en train un peu de flipper parce que chaque année, je sais pas si vous savez, mais vous avez le site The Consumerist qui organise un vote pour élire la pire compagnie aux États-Unis. Et étrangement, l'année dernière, c'était Electronic Arts qui avait remporté la Palme d'Or. Voilà, donc moi je dis, faites comme CD Projekt, qui va sortir The Witcher 3 et qui avait déjà fait pour The Witcher 2 sans DRM. Nous voulons donner la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Quand nous avons enlevé les DRM, les gens sur le torrent ont demandé aux autres de ne pas télécharger notre jeu parce que nous n'utilisons pas de DRM. Donc tu vois, je trouve que la mentalité de CD Projekt, déjà c'est une autre philosophie. Ils soignent leur communauté de fans. Des développeurs comme ça aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Et c'est pour ça que je suis toujours impressionné par leurs déclarations. Et je suis vraiment content qu'on ait encore des gens comme ça dans l'industrie du jeu vidéo.
C'est sûr. Je vais juste finir par une toute petite parenthèse aussi. C'est comme tu le disais là. Je reviens un peu sur les pirates parce qu'au final c'est en partie pour les contrer que les DRM et excusez-moi le mot, toutes ces conneries ont été inventées. Les fameux pirates là. Ce qu'ils font, bon, c'est ils ont leur philosophie du tout libre pour tous, etc. Bon, mais il faut pas oublier que comme tu le disais, ils n'incitent pas à pirater à tour de bras, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils marquent quand même, si vous avez aimé le jeu, par exemple, achetez-le. Voilà. Et souvent, même, les pirates mettent plus de temps à sortir un jeu, en tout cas, ils respectent la date de sortie, ils vont même jusqu'à attendre un peu, pour des jeux qui ont, comment dire, une démarche, on va dire, un peu plus libéraliste que les jeux avec des DRM. C'est-à-dire que le mec, il va sortir son jeu sans DRM, sans code, sans clé CD, sans toutes ces manigances
Toutes ces
là
merdes, tu peux le
pour
dire.
repousser le pirate. Ouais, toutes ces merdes aussi pour repousser le piratage de, on va dire, 10 secondes maintenant avec les nouveaux moyens informatiques. Et ben, de même, ils vont se dire, attendez un peu, on le sortira genre dans une semaine. Mais là, pour le moment, non, c'est un jeu qui vaut le coup d'être acheté parce que lui, il a pas essayé de vous niquer la tronche avec des trucs à 2 balles. Et donc voilà, donc là où ils ont raison, les gros développeurs, peut-être qu'un jour ils se rendront compte, c'est que plus tu lâches la bribe et plus les gens vont être cool derrière et vont acheter le jeu. Et pour parler de SimCity, puisque c'était de lui dont il était question, un jeu comme ça qui est quand même pour moi un prototype raté de jeu, et j'ai pas peur de le dire, un gros foutage de tronche pour essayer de rester poli. Pour moi, ça, par exemple, c'est une erreur, je pense, qu'EA ne fera plus parce que C'est vraiment, on dit les gens, tiens, je te vends une daube, il y a écrit SimCity dessus, et puis on te fout un DRM et une connexion permanente. Et enfin, là, ils ont sorti, je crois, la plus grosse bouse des années 10, 2010, tu vois. Là, à mon avis, on pourra pas faire mieux. Non, franchement, non, parce que je te dis, DRM plus jeu pas fini plus etc. C'est quand même, ils ont fait fort pour un gros développeur. Moi, y est, j'aime beaucoup, mais là, ils ont fait fort. Et c'est vrai que je pense que là, tous les gros développeurs comme ça sont en train de se dire, faut peut-être qu'on arrête les conneries de seconde, parce que donc voilà.
Bah oui, je trouve que t'es sévère avec SimCity, hein, parce que franchement, tu peux construire des bâtiments et ça, c'est la classe. Bon, en parlant d'emploi, ça tombe bien, nous allons parler de la news AMPE de ce mois-ci, enfin, deux news AMPE de ce mois-ci. Donc la première, c'est Activision, qui licencie 40 personnes, c'est High Moon Studio. Donc High Moon Studio, c'est qui? C'est ceux qui ont développé donc le jeu Deadpool The Game, qui n'est toujours pas fini. Mais Activision a décidé de licencier quand même 40 employés sur les 75 qui l'a composé. Voilà, donc... tu licencies sans que le jeu ne sorte. Donc, ce qui fait que c'était déjà joué d'avance, en fait, que t'avais déjà prévu de les licencier, hein. Mm. En plus, ça, déjà, Activision qui se gaffe sur les Call of Duty, les Skylanders, tout ça, qui, voilà, c'est pas la plus petite société du monde, c'est pas la plus à plaindre. Ils se portent toujours bien, ces enfoirés. Et surtout, ce qui m'a fait rigoler, c'est la déclaration, c'est, Activision justifie ses décisions, rappelons, sa volonté de toujours aligner ses coûts et les revenus lorsque le développement d'un projet touche à sa fin. Donc, ça fait plaisir, j'espère que plus personne n'ira bosser chez vous, hein, les mecs, hein, si vous lancez une offre d'emploi, parce que, voilà, quand tu vois comment ils traitent les gens comme de la merde, ça fait un peu peur.
Ouais, par exemple, moi qui vais faire des études de game design, j'irai pas bosser chez Activision. Ah, c'est assez fou. Mais d'un autre côté, bon... enfin, je me mets à la place, toujours, hein, je me mets un peu avocat du diable, toujours. D'un autre côté, si les employés, ils viennent, ils savent pertinemment qu'ils vont faire le coup, vu que c'est leur politique. Ah, finalement, ils sont pas attaquables, Activision, derrière. Si les employés viennent en disant, je sais que de toute façon, j'ai une chance sur deux de me faire virer.
Oui, mais bon, en même temps, tu sais que, voilà, on est tous obligés de manger, tout ça, de payer ses factures et tout.
Mais, voilà.
Activision, ils viennent, ils leur mettent pas non plus le couteau sous la gorge pour venir, hein. Mais, il leur met pas ça, mais quand tu as une offre d'emploi de travailler, tu dis, tu espères quand même garder ton emploi le plus longtemps possible.
Oui. Ah oui, non, mais j'ai pas dit que c'était louable. J'ai dit que c'était le jeu. C'est-à-dire que le jeu Activision, on est tous d'accord. Activision savent très bien jouer à ce niveau-là sur ce qu'il faudrait pas faire du tout. Hein. C'est-à-dire que Activision, ce qu'il faut pas faire, c'est 1000 DLC, ils le font. Ce qu'il faut pas faire, c'est 53 extensions avec trois nouveautés dedans. Bah, c'est ce qu'ils font. Ce qu'il faut pas faire, c'est virer les employés à 2 mois de la sortie. Puis c'est ce qu'ils font. Mais par contre, ils se font en sorte que ben derrière, on n'ait rien à leur dire parce que c'est le jeu. Et je suis pas d'accord avec eux. Mais c'est juste, c'est pour ça que d'ailleurs Activision marche très bien, c'est qu'ils ont compris tous les trucs pour être les plus gros enfoirés possible tout en étant inattaquable. Ça, Activision, là-dessus, ça marche du tonnerre.
Et le plus gros coup qui m'a tué en apprenant la nouvelle, c'est que Activision a décidé, a offert la possibilité plutôt une reconversion de ces employés-là au sein de leur service d'assistance. Donc, en fait, les mecs, ils vont refaire ils vont trop téléphone. T'es développeur de jeux vidéo, tu passes, ça a aucun rapport. Je pense pas que la paye ça doit être pareil aussi. En gros, c'est, on vous licencie, mais bon, hein, si tu veux passer un coup de téléphone, tu veux faire le balai, hein. Et moi, je pense que ils vont plutôt rentrer chez eux et prendre un poster de Bobby Kotick et jouer aux fléchettes avec. En parlant de Deadpool, donc la date de sortie c'était 2013, mais on n'en sait pas plus. Et pour ceux qui connaissent pas Deadpool, hein, tu connais Deadpool, mamie?
C'est mon héros préféré Marvel.
Qu'est-ce qu'il fait ce héros?
Bon, je ferai peut-être un point culture dessus plus tard. Très rapidement, en gros, c'est un mercenaire qui a la même capacité de régénération que Wolverine. Sauf que lui, le problème, c'est qu'il a tous les cancers du monde en même temps. Mais qui se régénère constamment. Donc en fait, c'est pour ça qu'il porte un costume complet. On voit jamais son visage, ou très peu. En tout cas, dans la BD, on la voit, mais c'est vraiment une tronche horrible, bouffée par le cancer. Et il est très connu dans le monde de Marvel pour une raison, c'est que lui, c'est le seul super-héros, à ma connaissance en tout cas, qui brise le quatrième mur. Donc en fait, qui parle au lecteur, hein, mais clairement. Parfois, il saute des cases, il casse les cases de la BD pour s'en sortir, pour aller dans le futur, comme il dit, etc. Voilà, donc c'est une BD très spéciale où il brise constamment le quatrième mur. Moi, c'est ce que j'adore.
Il brise le quatrième mur, donc c'est le seul héros qui sait qu'il est dans une bande dessinée, qui sait qu'il est dans un jeu vidéo, dans Marvel et Capcom 3. Tu as vu des images de gameplay de ce jeu, en fait, ou pas, non?
Plus ou moins, c'était en tout cas des cinématiques et ce que je supposais être plus ou moins du gameplay sans le HUD. Bah écoute, hein, ça va être un gros bisou multitâche, hein. De toute façon, ça allait pas être un jeu d'énigmes ou de cherchage d'objets, hein.
Il s'annonce pas très bien le jeu quand même, hein, parce que vu que on n'a pas vu grand chose, je me méfie beaucoup.
Et surtout avec les licenciements, ça va pas aller pour l'avenir. Ah,
c'est sûr. En parlant de licenciements, tiens, Mickey licencié au pays de LucasArts.
J'ai pleuré.
Donc LucasArts, à qui on doit notamment la saga Monkey Island, Grim Fandango, Days of the Tentacle aussi.
Ouais, Maniac Mansion.
Voilà, aussi. Des jeux qui ont vraiment marqué les point and click, hein, à leur époque, et qui étaient vraiment un studio plutôt qui avait une bonne qualité d'écriture, je trouve aussi.
Ouais, ouais. Ils ont fait de très bons jeux aussi, dérivés de Star Wars, forcément.
Donc c'est tout ça pour vous dire que voilà, LucasArts, ça va devenir plus un label qu'autre chose en fait.
Il est mort. Hein.
C'est 150 employés qui sont mis à la porte après un rachat de 4 milliards d'euros par Mickey. Hein. Il y a quand même 150 personnes qui sont mises au chômage. L'éditeur américain annule également tous les projets du studio. Donc on a dedans Star Wars Force d'Assaut et Star Wars 13-13. Voilà, donc on peut dire au revoir à ces jeux qui avaient l'air prometteurs, surtout le 13-13 qu'on avait vu une démo à l'E3 dernier. C'était un TPS, dans les bas-fonds de Coruscant, je crois.
Bah, à l'étage 1313, en fait.
Techniquement, c'était la next-gen, hein.
Clairement, clairement. Après gameplay, on peut pas s'avancer, mais...
Non, le gameplay, on voyait que c'était un TPS, quand même. Après, moi, pour un jeu Star Wars, je préfère plus un jeu où on a un sabre laser ou bien un jeu de rôle. Aussi, par rapport à Star Wars 13-13, apparemment, il devait s'intéresser à Boba Fett. Donc pour les fans du personnage, vous pouvez verser vos petites larmes.
Par contre, du côté licenciement, il me semble avoir entendu dire que les licenciés, malheureux, étaient plus ou moins réengagés dans le studio de développement de Disney. Mm-hmm. Il me semble.
Ouais.
Certains, en tout cas.
Mais Disney, qu'est-ce qu'ils font comme jeu en ce moment?
Oui, bah après, voilà. Mais bah écoute, s'ils ont licencié LucasArts, c'est sûrement pour reprendre leur projet. Ou en tout cas, sur leur studio à eux. Et Disney, c'est pas en soi, c'est pas un studio de développement mauvais, hein, ils peuvent faire des choses. Après, de toute façon, pour revenir très rapidement sur la fusion Disney-Lucas, on verra ce que ça donnera. Qu'à partir du moment où Star Wars 7 sera sorti au cinéma, ou en tout cas les premiers produits Star Wars estampillés Mickey sortiront. Mais j'ai tendance à pas me faire trop peur pour l'avenir, sachant que Disney a aussi acheté Marvel et que les films Marvel c'est pas forcément du grand cinéma, mais moi j'aime beaucoup.
Et aussi par rapport en fait à la licence Star Wars ou Indiana Jones, il faut savoir que il préférait confier l'adaptation de jeux vidéo à des éditeurs tiers. Après, quel éditeur, tout ça, on n'en sait pas plus, hein. Mais un gros éditeur sur un jeu Star Wars, ça pourrait t'intéresser ou pas?
Tout dépend du traitement, encore une fois. Moi, 1313, il m'attirait, pas plus que ça. Il était beau, mais comme tu disais, c'est un TPS et c'est pas ce que j'attends d'un Star Wars. Même si je me suis amusé sur, par exemple, Battlefront.
Ouais, moi aussi.
Qui était une sorte de TPS, hein, on va dire, de masse. Mais non, moi, les Star Wars qui m'ont vraiment marqué mon enfance, c'est Jedi Knight, Jedi Academy. J'ai adoré. C'est la première fois que tu pouvais jouer un Jedi, qui était un TPS aussi en partie d'ailleurs. Non, il faisait FPS, autant pour moi. Et il y avait aussi toute la série des KOTOR, Knight of the Old Republic, etc. Là, c'était le RPG pur et dur, et tu pouvais passer des heures et des heures et des heures à explorer des planètes, etc. Il y a eu le MMO Star Wars, que je trouve bon, mais qui malheureusement a eu du mal à se lancer, etc. Donc voilà, c'est plus ce genre de jeu. Si un gros développeur arrive à faire un super bon RPG à la sauce Mass Effect, moi je suis acheteur tout de suite, hein.
Ouais, bah justement, en parlant de Mass Effect, c'est bien, parce que qu'est-ce que tu penserais d'un BioWare qui reprend par exemple une licence comme Star Wars, comme il l'avait fait à l'époque, en faisant le premier KOTOR? Moi, ça, ils annoncent ça, je signe direct.
Ah bah oui, non, clairement, clairement. Clairement, clairement. Et encore une fois, le rachat de Lucas par Disney là-dedans peut aider aussi, puisque Disney, mine de rien, c'est quand même une grosse pompe à fric. Et que ils ont tendance quand même à bien savoir l'utiliser, l'argent qu'ils gagnent.
Donc voilà, on a fini pour à peu près toute l'actualité marquante de cette semaine. On va faire un petit point sur la saga Metal Gear Solid en tant que joueur invétéré de la licence.
Et fan hardcore, oui.
Hardcore. Tu as fini le jeu en extrême européenne, c'est ça?
Plusieurs fois.
On s'incline. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur MGS et apparemment l'absence de David Yetter au doublage?
Comme chacun sait en ce moment, hein, Metal Gear, c'est le gros fouillis comme Kojima adore faire. Kojima, c'est un vrai chef d'orchestre, il aime bien jouer avec le monde entier.
Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire par là que le scénario de Metal Gear Solid est totalement incompréhensible et qu'il part dans tous les sens?
Oui, mais alors, Kojima, c'est un homme à part. Je pense qu'il a toute l'histoire dans sa tête, et petit à petit, il la distille, et petit à petit, il joue avec les joueurs pour créer la demande, parce qu'il est pas fou non plus, c'est un très bon vendeur. Et là, par exemple, il annonce, c'est-à-dire que au moment où on annonce finalement que Ground Zeroes et Phantom Pain ne sont pas le même jeu, à ce moment très précis, donc on dit que Metal Gear Solid 5, c'est The Phantom Pain, qui c'est qui vient? C'est David Hayter, la voix inoubliable de Solid Snake et de The Boss, mais dans Metal Gear Solid 3. Parce que, bon, je n'ai pas joué à Metal Gear Solid 3, malheureusement, ni au 4, parce que je n'ai jamais très vraiment signé avec les machines Sony.
Alors mais pour le 3, tu as raté quelque chose. Pour le 4, oui. Tu as raté un long film interactif. Voilà. Le 3, c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre, hein, avec le premier Metal Gear Solid, c'est des monuments du jeu vidéo pour moi. Le 4, pour en tant que fan, je sais pas comment tu peux te décrire en tant que fan si tu n'as pas fait le 4, parce que ça répond vraiment à beaucoup de questions sur la saga. Même des fois, on voit qu'il y a des choses qui ont été un peu, comment dirais-je, il a essayé des fois de répondre à des questions un peu trop compliquées par rapport, notamment sans spoiler, du cas de Vamp, tu vois.
Voilà,
des trucs comme ça, hein, voilà, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux, c'est totalement Kojimest, hein. Après, soit on aime, soit on aime pas, mais bon, si on aime pas, on joue pas à Metal Gear, j'ai envie de dire.
C'est ça.
Et, voilà, donc, ça, c'est vraiment, le 4, t'as pas raté grand chose, en termes d'heures de jeu, de gameplay, hein, pur et dur. T'as raté des longues cinématiques, c'est tout. Mais le 3, c'était vraiment, pour moi, entre le 1 et le 3, c'est les deux que je préfère.
Ouais, voilà. Et oui, donc il faisait la voix de The Boss dans le 3, et à ce que je sais, il ne faisait pas la voix de The Boss dans le 4, parce qu'apparemment il est dans le 4. Mais encore une fois, j'essaye de ne pas trop me spoiler et d'avoir suffisamment d'argent pour me payer une PS3.
Pour ce cas précis de MGS 4, il double en fait Solid Snake, qui est dans MGS 4, qui est All Snake. Après, il peut pas doubler les deux personnages, parce que déjà, c'est pas du The Boss, bouchez vos oreilles si vous voulez pas savoir, mais
attends, ouais, pas.
The Boss apparaît dans MGS4, je dirais pas où ni comment, mais il peut pas doubler les deux personnages en même temps, sinon ça ferait ça serait un peu bizarre que les deux personnages aient la même voix et qui communiquent entre eux. Voilà, fin du spoil.
Ouais, donc ça tombe bien, j'ai pas écouté. non, en fait, le truc c'est ça, c'est que il pouvait pas doubler deux personnes en même temps, ça aurait fait bizarre. Ce qui fait que là, c'est, je tenais à préciser ce point-là pour la suite, c'est que donc David Hayter, au moment où on apprend que The Phantom Pain et Metal Gear Solid 5, c'est le même jeu, il dit ouais, il gueule, hein, ouais, moi on m'a pas demandé, je comprends pas, il y a le jeu qui sort, et puis on me demande pas un doublage, etc. Là-dessus, Kojima répond et dit à tout le monde, parce que tout le monde c'est la grogne, ça commence à grogner chez les fans et tout, quoi, David Hayter qui double pas. Kojima qui dit oui, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain va amorcer une sorte de, pas un reboot si vous voulez, mais une sorte d'avancée, voilà. On ne reboot pas l'histoire, mais on reboot le principe. En tout cas, on reboot le traitement de l'histoire. Ce qui fait que, on va changer les doubleurs, parce que ça passe par là. Alors là, tout le monde dit, ok Hideo, tu te fous de notre tronche, mais alors méchamment, vu qu'en fait, les doubleurs japonais, eux, ne changent pas. Tout le monde sait qu'au Japon, les doubleurs sont extrêmement, extrêmement aimés. Ils ont autant, on va dire, de renommée que les acteurs live peuvent avoir chez nous, par exemple. C'est-à-dire que chez nous, un acteur du genre, je sais pas, un acteur genre Jean-Paul Belmondo va être aussi connu que celui qui a doublé Solid Snake en français.
Bah d'ailleurs, voilà. En parlant de doublage, on n'a pas beaucoup de... À part David Yeter, tout ça, on connaît pas beaucoup vraiment de doubleurs chez nous en Occident, qui des personnages qui doublent des personnages de jeux vidéo. Moi, je pense à David Yeter. Il y a aussi celui qui double Nathan Drake dans Uncharted, mais donc tu vois, j'ai oublié le prénom. Après, il y en a pas beaucoup qui ressortent du lot, quoi.
Voilà, tandis qu'au Japon, tu dis qui a doublé Pikachu, et là, t'as le japonais qui va te répondre le nom de la fille qui le double. Bah, ça fait partie de leur culture, ouais, le doublage. Et donc, le doubleur japonais, lui, n'a pas changé. Ce qui fait qu'on lui a dit, à Hideo, enfin on lui a dit, en tout cas on le dit entre nous, c'est Hideo Kojima, il se fout encore de nous. En plus on sait que David Hayter c'est aussi un petit joueur, enfin un petit joueur dans le sens il aime bien jouer avec les gens aussi. Et donc en gros c'est bizarre parce que David Hayter dit quoi, on m'a pas demandé de doubler, mais il n'avait absolument rien dit au moment de l'annonce du premier Metal Gear, c'est Ground Zeroes. Alors que dans Ground Zeroes il y a aussi Big Boss. Parce qu'apparemment, c'est Big Boss qu'on joue dans Ground Zeroes. D'ailleurs, ça se voit, il a son patch.
Ah, c'est Big Boss qu'on joue dans Ground Zero et dans Phantom Pain aussi, c'est lui qu'on l'a.
Bon, ça, on y reviendra tout à l'heure dans les petites spéculations. Mais oui, en tout cas, dans Ground Zeroes, c'était Big Boss. Et là, on l'a pas entendu râler. C'est là que les gens ont commencé à dire, mais attends, mais David Hayter, pourquoi tu râles pas depuis octobre ou novembre, je sais plus. Et en fait, les gens ont commencé à réfléchir et se sont dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dans Metal Gear Solid 4, David Hayter ne doublait pas Big Boss, puisqu'il doublait déjà Solid Snake. Et c'est là que ça part, les spéculations, on y reviendra après. Mais en tout cas, ce simple petit jeu d'acteur entre David Hayter et Hideo Kojima font penser aux gens qu'en fait, on verra Solid Snake dans Metal Gear Solid 5, alors qu'on joue Big Boss. Vous voyez le délire ? Ce qui fait que David Hayter doublerait Solid Snake, mais pas The Big Boss.
Bon bah ça c'est pour moi c'est du teasing totalement Kojimesque, hein. C'est ça. Des fois il en fait un petit peu trop aussi je trouve. Mais bon après c'est moi les gens qui se lancent dans les spéculations tout ça c'est bien. Moi je suis pas trop dans le délire là, j'attends d'avoir le jeu une fois bien fini comme ça. Je me prends pas trop la tête avec ces conneries. Hein. Pour revenir au cas de David Hayter, il a tweeté une photo où il était avec celle qui double Naomi Campbell.
Ouais.
Moi en tout cas, tu vois David Hayter, pour moi c'était lui Solid Snake. Il avait la voix de Solid Snake.
Oui.
Après Big Boss et Solid Snake c'est pas la même personne, même s'ils sont le même ADN etc. J'espère juste que le prochain doubleur, il aura le même charisme que David Hayter, surtout dans la voix qui, moi je la trouvais vraiment voilà. Enfin après tu vois c'est ce que je suis habitué. Ça fait combien de temps hein, ça fait. Plus de 10 ans que je joue à Metal Gear Solid et que c'est la voix de David Hayter qui m'accompagne pendant ces pérégrinations. Maintenant, si le doubleur change, ça va me faire un petit peu bizarre au début. Voilà, c'est bah, bon. Après, maintenant, on va passer aux parties spéculation si tu veux.
Ouais.
À moins que tu aies quelque chose à ajouter sur David Hayter tout ça, non?
Juste sur le doubleur qui va le doubler, enfin qui va changer en tout cas qui. Hideo Kojima a parlé du doubleur qu'il voulait prendre pour Naked Snake, donc Big Boss. Hein. Il y a un film qui est en préparation, Metal Gear Solid, depuis un moment, depuis même longtemps. Et c'est sûr, hein, c'est de l'assurer, il va y avoir un film à un moment ou à un autre. Et il parlait, en fait, Hideo Kojima, il voulait prendre comme doubleur l'acteur qui jouerait Snake dans le film. Pour justement, en fait, que les gens commencent à s'habituer à sa voix, et donc l'identifient beaucoup plus rapidement quand serait le moment du film. Et ça il l'a prévu, c'est-à-dire qu'il a dit en gros je vais prendre voilà pour les snakes, je dis les snakes parce qu'entre Solid, Naked, Liquid, etc.
Solidus
on sort plus. Solidus et compagnie et les cinq autres dont on n'a jamais encore entendu parler, qu'on entendra peut-être parler un jour.
Moi je pense que s'il faut en parler c'est maintenant parce que
voilà et donc je finis vite avec le doubleur. Donc en gros il veut un doubleur qui ait une voix reconnaissable et qui sera l'acteur qui jouera Snake. Et apparemment, il est déjà casté, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, c'est pour ça. Et c'est un acteur pas connu, encore une fois, pas bancable à Hollywood, pour qu'on puisse dire, ce mec-là, c'est Solid Snake. Et basta. Et donc, voilà. Pour le doubleur, ce serait lui qui prendrait. Et David Hayter, malheureusement, il n'a pas vraiment la tête à Solid Snake.
Il n'a pas vraiment la tête à Solid Snake, mais bon, il a la voix de Solid Snake, c'est lui qui nous accompagne.
Bah, c'est lui, hein.
C'est lui qui nous a accompagnés pendant, voilà, moult années. Après donc bah ça tombe bien parce que ça fait la transition avec les spéculations. Alors pourquoi on pense que David Hayter et tout ça et Hideo Kojima nous mène un petit peu en bateau? C'est parce que déjà Ground Zero et Phantom Pain devraient couvrir une période assez large de l'histoire. On
Oula,
pense
bah déjà 9 ans minimum.
voilà 9 ans minimum parce que déjà il va donc vous le
Il
voyez dans le
devrait avoir le
trailer,
coma.
il tombe dans le coma durant 9 années, donc il peut se passer beaucoup de choses. On sait que voilà en 1972 c'est la création donc des Enfants Terribles avec donc Liquid, Solidus, Solid Snake.
Puis 5 autres.
Là ça serait le bon moyen de faire la transition avec les 5 autres qui seraient d'autres Snake. Après je sais pas ce qu'il va inventer hein, Mole Snake.
C'est pas possible.
Bref, est-ce qu'on verra la création bah, des Enfants Terribles? Ou je sais pas, même si Solid Snake ou bien Liquid, on pourrait les voir, je sais pas, dans une chambre d'expérimentation. Tu sais, même en tant que clin d'œil, on passe et on se dit, mais attends, c'est qui ce petit blondinet? Ou bien lui là, il fait rappeler un petit peu Solid Snake. Ou même pourquoi pas les jouer pendant une courte période de jeu, parce qu'on sait que la période elle irait jusqu'à début 84.
Ah, attends que je dise pas de bêtises, c'est-à-dire que Ground Zeroes, je sais, ben, il se passerait, en fait, Ground Zeroes en 1975, vu qu'il tombe dans le coma, alors il tomberait apparemment dans le coma à la fin de Ground Zeroes, puisque ça ferait la transition entre Ground Zeroes et The Phantom Pain. Donc, ce serait en 75, il se réveillerait exactement en 1984 dans The Phantom Pain.
Voilà donc déjà 1975, les Enfants Terribles ils
En
sont déjà
3 ans.
créés. Voilà, ça fait déjà 3 ans. Ils tombent dans le coma et tout ça, donc ça fait 9 ans, ça fait 12 ans exactement.
Très exactement.
Voilà, donc 12 ans et Solid Snake tout ça peuvent commencer à s'entraîner. Voilà, c'est moi je trouve que en tant que fan des Metal Gear Solid hein, que je suis, parce que moi j'ai fait tous les Metal Gear, même les ceux sur PSP. J'aimerais bien voir moi la naissance de Solid Snake, le personnage que je préfère dans le jeu vidéo.
Ben c'est vrai que je vais pas mettre ma petite pierre à l'édifice des spéculations. Les enfants terribles,
Non, non,
c'est
non,
vraiment l'histoire de...
c'est les enfants terribles.
Les enfants terribles, c'est vraiment le centre de l'histoire au final. Parce qu'au final, dans Metal Gear Solid 1, enfin, un très gros bout de l'intrigue, c'était autour des enfants terribles. On se disait, mais c'est qui ce blond qui me ressemble? Puis à la fin, je suis ton frère jumeau, et puis nous on était là, ah bon, sans déconner. On l'avait deviné depuis un moment, mais en tout cas, et après il explique tout ça. Et il dit bien que tous les enfants terribles, sauf eux, sont morts. Or, dans Metal Gear Solid 2, c'est qui que voilà? C'est Solidus. Et
Ouais,
ainsi de
il devait se
suite.
cacher dans un coin.
C'est ça. Alors, malheureusement, encore une fois, j'ai pas pu toucher à ce Metal Gear Solid 4 et je ronge mon frein depuis des années, même si c'est un film interactif, j'ai envie de le voir, mais en tout cas, je peux rien dire à ce niveau-là. Tout ce que je sais, c'est tout ce que je peux essayer de deviner. Et par exemple, je sais que dans le trailer de The Phantom Pain, on voit clairement Psycho Mantis, petit,
Oui.
il a 12 ans à peu près. De là à penser que Psycho Mantis serait aussi un enfant terrible, on n'est pas loin. Bon, c'est pas forcément vrai parce que il explique l'histoire quand il est petit, etc. Mais on peut y penser, hein. Voilà, on peut penser à tout. Et moi, je vais plus loin dans la spéculation et dans les petites idées, c'est qu'on peut aussi penser que finalement, dans The Phantom Pain, on ne joue pas. Comment il s'appelle déjà? Big Boss. On ne joue pas. C'est-à-dire que on pourrait jouer tout à fait un autre enfant terrible, ce qui expliquerait tous les délires avec la corne, etc., des trucs chelous, il a plus de bras gauche. D'ailleurs, je pourrais m'identifier encore plus au personnage, du coup. Il a sa prothèse, la super high-tech, etc.
Tu as une prothèse super high-tech, c'est donc.
Non, 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 mais j'ai pas de bras gauche. J'ai pas la prothèse qui va avec, malheureusement. Mais ouais, non, il y a ce truc-là de la prothèse, etc. Apparemment, Kojima aime bien couper des bras à ses personnages, à ses enfants terribles, qu'en fait, c'est le bras de Liquid Snake qui est accroché au bras des revolvers Ocelot.
C'est ça.
Liquid Ocelot, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle
C'est
ensuite.
ça.
Et voilà. Et donc, les enfants terribles, on va pouvoir, je pense, les voir. Aussi, l'histoire, apparemment, s'étendrait, comme tu l'as dit, sur énormément d'années, et pourrait même s'étendre jusqu'à 1995, à la bataille d'Outer Heaven. La bataille où Solid Snake tue Big Boss.
Enfin,
En théorie. Mais en tout cas, où il lui fait vraiment très mal. D'où la photo de David Hayter en compagnie de celle qui double Naomi Campbell. Naomi Campbell, qui, on le rappelle, est la sœur adoptive de Grey Fox.
voilà.
Or, Grey Fox et Solid Snake se battent encore une fois en théorie à mort, puisque Grey Fox ne meurt pas encore une fois,
parce qu'il
meurt
jamais. Il réapparaît dans MGS1, dans l'armure cybernétique du Ninja Cyborg.
Ben voilà.
Avec le magnifique, je me rappelle, fais-moi sentir vivant en version française.
Donc voilà. Ce qui fait que, au final, si, en fait, Phantom Pain, qui veut dire, alors je tiens à préciser, parce que beaucoup de gens se trompent en croyant que ça parle des illusions du soldat, The Phantom Pain. The Phantom Pain, en fait, c'est la traduction littérale de la douleur fantôme, qui est la douleur que quelqu'un ressent quand on lui a coupé un membre qui existait déjà. Voilà, c'est-à-dire qu'il sent encore le membre coupé et ça lui fait mal. Il ressent la douleur du moment où on lui a coupé le bras. Le bras pour Snake en tout cas, la jambe pour d'autres, etc. Je tiens à préciser parce que les gens font beaucoup d'erreurs. En tout cas, The Phantom Pain serait une sorte de lien entre tout ce qui s'est passé, donc Metal Gear Solid 3, il y a eu tous les portables Ops, il y a eu Peace Walker aussi.
Ouais, donc il se passe juste après Peace Walker en fait.
Voilà, Ground Zeroes se passe juste après Peace Walker normalement.
Voilà.
D'ailleurs, on voit la destruction de la Mother Base, il me semble, dans la bande-annonce. Bref, tout ça pour dire qu'au final, il y aurait donc Outer Heaven, et c'est là qu'on verrait Snake qui combattrait donc Grey Fox, et d'où d'ailleurs toute l'histoire avec Naomi Campbell, et donc ça expliquerait la photo de David Hayter avec la doubleuse de Naomi Campbell. Ce qui fait qu'en fait, ils font leur petit teasing, ils font des pièces de puzzle, les gens les prennent, ils font leur spéculation, mais... À part ça, je vois pas, ou alors une espèce de revival entre acteurs, je vois pas pourquoi les deux acteurs seraient ensemble et auraient surtout posté une photo d'ensemble dans les studios de Konami.
C'est sûr, et moi pour revenir un peu aux spéculations, tout ça, par rapport au fait qu'on voit des baleines, des licornes enflammées, des cornes qui sortent de la tête de Big Boss, pour moi c'est, j'ai deux spéculations, c'est soit qui vit ces moments-là dans le coma, peut-être, ou soit Psychomantis. Qui lui fait voir certaines choses avec ses pouvoirs télépathiques là, il fait des choses assez incroyables ce petit, hein. il vole dans le ciel, etc. Voilà, donc comme on sait que dans le premier Metal Gear Solid, le combat contre Psycho Mantis c'était un des moments mythiques de la saga Metal Gear, hein. Même du jeu vidéo tout court, parce qu'il, comme Deadpool, qu'on parlait tout à l'heure, il brise le quatrième mur à ce moment-là.
Ouais, il lit dans ta sauvegarde et tout.
Ouais, des trucs de ouf, il fait vibrer ta manette, tout ça, ton écran devient noir, il y a écrit IDEO, en faisant référence à vidéo.
Tout ça, en tout cas, on tient à le préciser pour ceux qui seraient pas sur PlayStation première du
jeu. Voilà. Et pour le combat, tu pouvais pas le toucher parce qu'il esquivait tes coups, il lisait dans tes pensées, il fallait donc passer sur le port de la deuxième manette pour lui ouais. Casser la gueule. Voilà. Enfin, bref, un délire. Et donc là, est-ce que dans MGS V, est-ce qu'il aura ces pouvoirs un petit peu encore chelous? De nous faire voir des trucs et ça, est-ce que Kojima va s'amuser un peu avec nous dans le jeu en faisant apparaître des choses qui sont pas réelles et tout ça. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, Metal Gear Solid, c'est une des sagas de jeux vidéo que je préfère le plus, par le délire tout ça qui est assumé par le développeur et tout ça, le génie de Kojima sur certaines situations. C'est un grand jeu qu'on attend, je pense, fébrilement.
Tu m'étonnes. À savoir qu'une information sûre à ce niveau-là, en tout cas au niveau de Phantom Pain, c'est que le jeu serait à 20% des illusions, 80% de la réalité.
Ouais, donc j'espère que ces 20% d'illusions seront traitées de manière vraiment bien fichue, tu vois, un petit peu en beaucoup plus poussée par exemple qu'un Eternal Darkness, tu vois. Je sais pas si tu connais.
Ouais, c'est le jeu sur GameCube.
Voilà,
ouais,
mais il y avait des petits trucs comme ça qui faisaient des délires. Là, j'espère vraiment, j'aimerais bien avoir un petit truc comme ça, mais vraiment des délires de fou, quoi, tu vois. De toute façon, c'est Kojima, je lui fais confiance.
À ce niveau-là, ça devrait aller. Sachant que, alors, encore une fois, une dernière spéculation, un truc qui revient souvent, c'est qu'en fait, Ground Zeroes et Phantom Pain seraient un peu comme Dead Rising 2. Il y a eu un Dead Rising 2, oui, Epic Case Zero.
Voilà, c'était un DLC pour ceux qui savent pas, qui était sorti en avance du Dead Rising 2 en fait. Le DLC c'était
Case Zero.
Avant Case Zero c'est Case Zero c'est celui que tu joues avec Frank West.
Non, Case Zero c'était celui que tu jouais avec.
D'accord. Donc le DLC qui était sorti avant la sortie du jeu, une sorte de préquel en fait à l'aventure que vous allez vivre dans le jeu qui sortait, je crois, 2 semaines après.
Dans ces eaux-là.
Ouais. Ouais, et donc, mais bon, moi je pense, sortir un DLC et ensuite sortir un jeu en boîte. Non, moi j'aimerais pas trop.
Alors,
ouais.
Alors juste, ce serait pas un DLC. Hein, ce serait. Alors, on parle de deux choses. Soit ce serait un jeu à part entière qui servirait de Case Zero, mais ce serait un jeu complet. Alors là, ce serait juste énorme. Soit ce serait un truc à la Case Zero, mais intégré dans le jeu.
À part dans le premier Metal Gear, sur PS1 quand je parle. Dans MGS2, on a la scène du tanker. Dans MGS3, on a la mission vertueuse, voilà, qui se passe dans MGS3. Dans MGS4, c'est un peu plus différent parce que c'est découpé en chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre... Enfin, il y a même chapitre prologue, tu vois, chapitre prologue, chapitre 2, tout ça.
Ouais.
Dans MGS5, moi, je pense que... En termes de spéculation, on a une première partie qui... Donc, la Ground Zero, on joue. La première partie, tout ça, ça va être bien.
Tu fais le lien entre Peace Walker et ça, je pense.
On va faire du...
Peace Walker, j'espère que... Parce que... Je te coupe deux secondes, parce que Peace Walker, à savoir, c'est un opus PSP qui est sorti avec une compilation de Metal Gear Solid 2, 3 et Peace Walker. Je tiens à préciser, parce qu'en fait, justement, c'est là où je te rejoins, c'est que Peace Walker, pour ceux qui auraient joué, ça s'arrêterait au début de Ground Zero.
En tout cas,
Ground Zero commencerait à la fin.
Ground Zero et Phantom Pain, j'espère que ça sera un gros jeu coupé en deux, que Ground Zero aura son gameplay, tout ça, son truc, parce qu'on sait que Ground Zero, ça sera en mode ouvert et tout ça. Donc voilà, j'espère une bonne durée de vie et que ça nous amène à la fin qu'on connaît. Donc Solid Snake va dans le coma. Quand il se réveille du coma, il est un peu chamboulé. Pourquoi pas donc une nouvelle, tu vois, parce qu'on a vu Hideo Kojima à la GDC jouer pendant 6 minutes de gameplay où il rampait, ouais, tout ça. Donc un nouveau tutoriel. Mais moi je pense que contrairement aux gens, j'aimerais bien qu'on joue ce tutoriel là, tu vois. Et après, pourquoi pas, comme on passe dans une nouvelle partie, on joue un autre personnage, même voir, tu vois. Par exemple, un Solid Snake jeune, tout ça. Parce qu'on sait, Hideo Kojima a dit clairement que par rapport au Metal Gear Solid, il aurait peur de certains thèmes qui vont être abordés parce que il pense qu'il pourrait se faire censurer, tout ça, à cause de certains termes qui seraient trop choquants, ou tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Jouer des enfants qui font la guerre, tout ça, ça serait un terme assez lourd, je pense. Et donc l'absence de David Hayter, enfin ça ferait bizarre d'avoir un David Hayter qui parle pour comme un gamin de 12 ans, quoi. Mais je sais pas pourquoi, donc ou peut-être que pourquoi pas Outer Raven refait en 3D, tu vois. Enfin je sais pas, ouais, c'est des spéculations que
par contre alors là encore Kojima peut se jouer un peu de nous, il a dit qu'en fait un seul personnage serait jouable.
Ouais.
Il a dit très clairement une seule personne serait jouable. Après, il pourrait très bien jouer avec les ADN identiques, hein. On ne sait pas. En partant du principe, en gros, il n'y aura pas de Raiden, quoi.
Tant mieux.
Raiden, maintenant, il a sa série à lui, il est bien là où il est. Mais en tout cas, ouais, il a parlé d'un seul personnage jouable. Donc après, on peut encore penser plein de trucs, mais c'est vrai que jouer des enfants, personnellement, je pense que ce serait quand même un tout petit peu abusé.
Bah ouais, mais bon, je sais pas, c'est par rapport à Big Boss, tout ça, c'est des trucs, c'est que au début il est considéré comme un héros et après comme un gros enfoiré, en gros.
Mais avec Diamond Dogs notamment.
Voilà, envoyer des enfants au charbon de la guerre, moi je dis pourquoi pas, tu vois, il envoie les petits mouflés aller trucider des gens, tout ça, un peu comme l'analogie qu'on peut faire avec l'histoire de Raiden dans MGS2, quand on sait, et dans aussi le dernier MGS Rising Revengeance, enfin c'est pas trop développé dans Rising, mais quand il parle des enfants terribles, tout ça, on sait que Raiden a été élevé par Solidus, et que Solidus l'emmenait faire la guerre au Liberia, en fait, et que Raiden, quand il tuait, tout ça, il avait pas d'émotion et tout ça, donc pourquoi pas Big Boss referait pareil avec Liquid, Snake et tout ça, comme on sait que c'est un monde ouvert. Il envoie, je sais pas, Liquid en Afghanistan, Snake aux États-Unis, l'autre à Patauchnock, tu vois, et donc peut-être que ouais. Il y a les cinq mouflés qui sont morts, ils seraient morts lors de ces missions-là, tu vois.
C'est possible.
Et enfin bref, plein de théories de fans. Je pense qu'on va arrêter parce que on divague quand même assez loin. Vous comprenez, ouais. Donc Metal Gear Solid, pourquoi les gens sont enthousiasmés par cette saga, parce que voilà, il y a beaucoup de théories, c'est assez riche, c'est assez complexe. Je pense que pour des développeurs, des joueurs non initiés à la saga, ça va être un peu compliqué d'attraper le train en marche quand même, hein. Il y aura beaucoup de choses, même toi qui n'as pas fait MGS3 par exemple, pour comprendre Ground Zero ou Phantom Pain, il faudra que tu te le refasses quand même, hein.
Ouais, de toute façon j'y compte, hein, mais
Ou bien ouais, bah tu te rachètes une PlayStation 3 ou une Xbox 360 et tu fais la compile.
voilà,
Mais
c'est à faire.
voilà.
Il faut que je fasse le 4 aussi.
Bah le 4, si tu veux faire le 4, il faut que tu rachètes une PS3.
Voilà.
Ou bien sinon, tu vas sur YouTube et tu regardes un walkthrough. Ouais, mais il y en a plein de walkthroughs sur MGS4. Moi je te conseille de faire ça, si tu veux pas acheter de PS3, tu vas économiser plein d'argent. Bon, nous allons passer donc au jeu du moment. Et cette fois-ci, bah, puisque tu es là, ça tombe bien, c'est toi qui t'y colle. On va parler
Exact.
de quoi donc?
On va parler de Antichamber. Jumper, c'est un petit jeu indé, bah tiens, un jeu indépendant donc, qui est sorti cette année. Je suis en train de faire le test d'ailleurs. Donc il est sorti le 31 janvier. C'est un FPP, un First Person Puzzle, un peu à la Portal hein, ou Cube qui était sorti il n'y a pas longtemps non plus. Sauf que, bah écoute, pour y avoir joué et avoir quand même vachement de mal à le terminer. Je trouve que le jeu est extrêmement étrange et différent. Donc, je vais faire très rapidement le petit tour. En fait, on joue quelqu'un qui est quelque part, et franchement, c'est pas plus. Le menu du jeu en soi est une pièce déjà, c'est-à-dire que c'est une pièce, et puis il suffit de viser sur le mur et puis de cliquer sur le bouton qu'on veut, et c'est le menu du jeu. Et on atterrit dans cette pièce-là, et il y a un compte à rebours de 1h30, il me semble. Ouais, c'est 1h30, je dis pas de bêtises. Et en gros, il faut sortir et puis aller traverser des salles. Sauf que, bah déjà rien que dans le design, on est perdu. Parce que je sais pas si tu vois ce que c'est que Echochrome.
Oui, je vois ce que c'est, et de toute façon, Antichamber, ne t'inquiète pas, je connais.
Voilà. Antichamber aussi, bon bah voilà. Bah en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, les graphismes de Antichamber ressemblent énormément à Echochrome. C'est-à-dire que en gros, c'est un graphisme hyper épuré, où on ne voit quasiment que les contours des murs. D'ailleurs, on ne voit que ça, hein, le contour des murs. Et tout est blanc. Ou bleu, ou rouge, ou enfin tout est d'une couleur unie pour la plupart du temps.
Oui.
Avec des effets lumineux, mais de couleurs qui flashent. Voilà, c'est vraiment c'est un monde blanc, complètement aseptisé. Et bah on ne voit encore une fois que le contour. Ce qu'il y a aussi de bien donc dans l'Antichamber, c'est donc un jeu de puzzle qui est extrêmement compliqué. Et quand je dis extrêmement, c'est qu'il est vraiment extrêmement compliqué. Autant il a certaines petites énigmes gentillette, facile.
Ah, ça, c'est au début du jeu, je pense. Hein. Au début du jeu.
Au début du jeu. C'est... Et à chaque extension, je vais y revenir.
Ok.
De Portal Gun, enfin de Portal Gun.
Oula.
Déformation. À chaque extension de Gun, autant puce. Pour moi que c'est... Oui, voilà. Puisqu'en fait, c'est un jeu, alors, bizarrement, la plupart des, comment dire, la plupart des énigmes vont se baser sur un principe plus ou moins à la Minecraft. C'est-à-dire que on va vite avoir à notre possession un gun qui va nous permettre d'aspirer des cubes, qui va nous permettre de reposer les cubes à la Minecraft. Et ces cubes-là, souvent, c'est des petits cubes, hein, c'est pas des cubes taille humaine comme dans Minecraft, c'est des tout petits cubes prédéfinis, on peut pas détruire et remettre les niveaux, qui vont servir à couper des rayons, des faisceaux laser, la plupart du temps c'est ça d'ailleurs, on coupe des faisceaux laser avec des cubes, ou alors au contraire on les réactive avec des cubes, etc. Et ça part sur des mécaniques extrêmement complexes, c'est-à-dire qu'au début on ne fait que ramasser des cubes et les poser. Puis une deuxième extension va nous permettre de ramasser certains cubes, qui, par exemple, si vous coupez une ligne, cette ligne va disparaître au moment où vous allez couper un cube. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Et par exemple, vous faites un carré vide avec le cube, et le carré va se remplir de cubes, et ainsi de suite. Et c'est que des petites mécaniques comme ça, toutes bêtes, mais qui vont, vous retournez le cerveau comme pas possible, parce que, franchement, c'est retors. Et le monde d'Antichamber en lui-même est déjà complètement tordu. C'est-à-dire que dès le début, par exemple, vous arrivez dans la toute première pièce, puis il y a un gros jump écrit devant vous. En vous, qu'est-ce que vous faites? Vous sautez.
Jumper.
Mais qu'est-ce qui se passe? Vous tombez dans le vide. Et ensuite, vous arrivez sur une toute petite sorte de mini télé dans le mur. Vous cliquez dessus et en gros, la télé dit tomber. Enfin, c'est une phrase du genre. Tomber à terre n'est pas forcément
la mort, ouais.
ne plus avancer sur le chemin, etc. Il y a que des phrases comme ça. Ouais, la mort, exactement. Enfin, tout est imagé de toute façon, et c'est que des choses comme ça. Et au fur et à mesure de votre progression, il va y avoir des petites télés avec des phrases un peu philosophiques du même genre, et il va y avoir des choses pas possibles, du genre vous avancez tout droit dans un couloir et au bout d'un moment vous vous rendez pas compte mais vous avez changé de couloir, vous revenez en arrière, vous n'êtes plus au même endroit.
Ouais, c'est comment tu le décris là, c'est quand même un jeu qui a l'air assez conceptuel, hein.
C'est du concept. Ben le mec l'a fait tout seul, il me semble, en plus.
Donc c'est un jeu conceptuel, c'est pas fait pour, je pense, une grande partie du public, hein. Il y a des gens que... Comme ça, ça a l'air assez compliqué, après, vraiment, ce que tu m'en dis, hein. Les énigmes, c'est assez tordu.
Ah, les énigmes sont tordues.
Ouais, donc, à qui tu pourrais conseiller ce type de jeu? Par exemple, les gens qui ont joué à Portal, tu penses que ça pourrait les intéresser, ou ça serait totalement différent?
Bon, Portal, c'est un cas particulier, dans le sens où c'est un jeu de réflexion, mais je trouve la réflexion, à part dans certaines salles à la fin, je parle de Portal premier du nom, hein, encore une fois, à part certaines salles un peu retorses, le jeu était facile à terminer. Maintenant, le Portal, il était bien pour GLaDOS. Hein, GLaDOS, c'est elle qui a fait énormément pour Portal, le personnage, hein, l'ordinateur qu'on entend tout le long, là, qui se fout de nous constamment, qui veut nous tuer. Pour ceux qui n'auraient pas joué à Portal, d'ailleurs, allez y jouer, hein. Non mais et GLaDOS ça fait énormément. Ouais, c'est ça. N'empêche que Antichamber lui n'a pas d'histoire. Les seuls points d'histoire possibles sont les fameuses télés dont je parlais avec les petites phrases. On ne sait pas où on est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on ne sait rien. On ne sait absolument
rien. Est-ce
qu'on
sait si on est au moins humain ou bien si on est un robot? On sait
même pas.
On sait pas.
On sait pas. On sait pas et on voit rien parce qu'on voit pas de pied, on voit pas de main, on voit juste le petit gun. Au début, on voit rien, il y a même pas de main, hein, pour te dire. Voilà, histoire, franchement, il y en a pas. Mais ambiance, ça par contre, il y en a une. Les graphismes à l'aïkochrome, vous entendez tout au long de votre marche des petits bruits, genre, vous savez, quand vous êtes dans un port, les petits bruits de goéland, de mouettes,
ouais.
Les petits bruits de mouettes, les trucs comme ça, les clapotis de l'eau, après, il va y avoir un bruit de vent, un peu ambiance, machin. C'est un jeu d'ambiance. Franchement, c'est un jeu d'ambiance. Alors, à qui je conseillerais, au final, ce jeu? À des gens qui aiment se creuser le crâne, parce que franchement pour moi c'est un jeu qui révolutionne le puzzle game, parce qu'il vous oblige à réfléchir vraiment autrement. Les puzzle games souvent c'est voilà, pose ton cube là, et puis après trois salles plus tard c'est l'endroit où tu dois poser le cube est un endroit bizarre et t'as un nouveau truc, c'est si tu le poses là ça fait ci, c'est... Non, là c'est vraiment ça remet en question tout ce que vous savez à chaque salle. Et c'est pour moi, c'est ce que j'appelle un vrai puzzle game. C'est-à-dire que c'est vraiment le jeu, c'est un jeu de puzzle, mais le jeu est un puzzle aussi en lui-même. Vous voyez ce que je, tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait.
C'est que voilà, c'est hyper conceptuel. C'est un jeu vraiment où il faut aimer se prendre la tête et il faut aimer ce qui est différent. Et pour moi, c'est un nouveau genre de puzzle game qui n'a jamais vu le jour jusque-là. Voilà. Donc qui, pour qui au final, ben ceux qui ont tout simplement envie de jouer à quelque chose qui n'ont jamais joué de leur vie, même si ça ressemble un peu à Portal dans l'idée, c'est-à-dire que c'est en vue à la première personne. Voilà, ceux qui veulent de nouvelles sensations de jeu. Moi, je sais que j'ai adoré et que je me suis dit enfin quelqu'un qui ose changer un peu, qui ose changer un peu de jeu, quoi. C'est pas un Portal like comme a pu l'être Cube, qui ressemblait beaucoup trop à Portal, selon moi. Cube, Q-U-B-E, hein. Y a un autre jeu là qui va sortir bientôt qui va s'appeler MagRunner qui ressemble beaucoup à Portal aussi. Bah celui-là il ressemble à Portal mais sans y ressembler. Voilà, et ça j'aime bien.
Donc vous l'aurez compris, Mamie l'ami conseille ces jeux à tous les amateurs de Call of Duty. c'est que des fois il y a des trucs qui sont pas logiques hein, apparemment dans le gameplay qui c'est assez tordu quand même, non?
Alors pas logique, ben.
Tu rentres dans une salle et que tu reviens derrière, c'est plus la même salle.
Alors oui, pas logique, mais c'est pas punitif dans le sens où vous appuyez sur échappe et vous revenez au hub de départ, c'est-à-dire la salle avec les options. Et si vous tournez la tête vers la droite, vous allez voir une map avec toutes les salles et vous pouvez retourner dans n'importe quelle salle de cette map-là. Sachant que bien sûr, certaines salles demandent d'avoir traversé d'autres salles avant, par exemple, parce qu'il vous faut un certain nombre de cubes que vous ne pourrez récupérer que dans les salles d'avant. Tu vois un peu ? Donc voilà, en fait, le truc c'est ça. Le truc c'est que c'est tordu, c'est pas très logique, mais franchement, si on se creuse le crâne, et si vraiment, en fait, le jeu veut ça, hein, que vous fassiez la démarche de penser autrement que ce que vous penseriez au départ. C'est-à-dire que il faut vraiment... c'est une des phrases beaucoup dites dans les jeux Professeur Layton. Professeur Layton dit souvent « Pense autrement à Luke. Pense, voilà, t'as un problème, pense-le d'une autre manière que tu penserais au départ et tu trouveras la solution. » Et ben là, ce jeu-là, c'est exactement ça. C'est penser d'une autre manière et vous trouverez la solution. Essayez des trucs qui ne sont pas logiques, genre, il y a un mur et juste, regardez-le. Et ce mur-là, il se trouve que c'est un œil. Et il se trouve que si vous le regardez 25 secondes, eh ben, il s'ouvre. Mais il faut avoir eu l'idée de regarder 25 secondes. Et au final, ce qui me fait marrer, c'est que c'est quelque part un peu toutes les mécaniques que font, je sais, parce que j'en fais un peu moi-même, j'ai commencé il y a pas longtemps, les speedrunners. Vous savez, les gens qui font les jeux, qui exploitent le moindre petit trou dans la map pour pouvoir sortir de la map ou des choses comme ça. Ils exploitent le petit bug que personne n'avait pensé à chercher, puis ils ont trouvé le bug. Et ben là, c'est un peu cette démarche-là. Chercher. Mais vraiment chercher. C'est-à-dire que tout, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Par exemple, une fois, sans faire exprès, je pose mon bras sur la touche arrière. Vraiment, hein, c'est pas fait exprès. Hein. Je voulais aller vers l'avant, mais moi, comme je joue avec mon coude, bon, c'est moins facile. Et j'appuie sur la touche de l'arrière, et je traverse un mur. Mais jamais j'aurais trouvé le mur autrement. Hein. Puis là, c'est une zone secrète. Ce qui fait qu'après, j'ai refait tout le jeu en longeant les murs comme un teubé pour pouvoir traverser si jamais le mur était... Tu vois.
Et alors ? Ça marchait.
C'est pour dire que il fallait y penser. Parce que comme tous les murs sont absolument blancs, il n'y a pas une marque comme quoi il pourrait y avoir un passage secret.
Mais qu'est-ce que je veux dire quand tu... Et alors, c'est-à-dire, il y a d'autres passages secrets mis à part celui-là ?
Oui, il y en a d'autres. Il faut les chercher, hein. Ils sont très compliqués. Il y a certaines salles où t'as l'impression que ça va te mener quelque part, et en fait, t'es déjà dans une zone secrète et t'es pas au courant.
En fait, ouais, s'il y avait une caméra qui te filmait, elle dirait, mais c'est quoi ce gros con qui fout dans tous les murs, quoi.
C'est ça. Et du coup, tu t'amuses. T'es là, tu fais, mais merde, j'y aurais jamais pensé, et ainsi de suite. Donc franchement, ouais, si vous voulez vraiment passer du temps à vous dire, mais c'est quoi ce jeu qui se fout de ma gueule, et vraiment à chercher, vous jouez à ça. Franchement, vous allez vous plaire. Si vous voulez vous tordre l'esprit, et avoir super mal au crâne après, mais juste en vous disant, ouais, c'était trop cool, bah, allez-y, prenez-le.
Et donc, ce jeu-là, tu le classerais dans quelle catégorie? Puzzle game?
Puzzle game conceptuel.
Puzzle game conceptuel. Donc, c'est du puzzle
ça,
game.
Ça reste un puzzle
mais
game.
Mais voilà, c'est très différent de ce qu'on a connu, quoi.
Ouais, c'est totalement différent en prenant des mécaniques de gameplay existantes. C'est ça qui est beau.
Et, et pour toi, ça révolutionne le genre ou pas, ce genre de jeu?
Disons que ça révolutionne le genre, mais alors qu'on soit clair, ça ne révolutionne pas le genre parce que c'est un gameplay différent. Ça révolutionne le genre dans le design. C'est un jeu, je pense, c'est un pur exercice de game design. Franchement. Le mec s'est quand même cassé, il est tout seul, il a été tout seul, hein. À part, bien sûr, je crois qu'il a été aidé pour la musique et puis pour le design, le dessin. Mais pour faire le game design et toute la programmation, je crois qu'il a été tout seul, le gars. Et franchement, il a fait un exercice. C'est-à-dire que c'est quelque chose de jamais vu dans matière de game design. Ou en tout cas, très peu. C'est vraiment du concept, mais il a poussé le concept loin dans un jeu qui est très long. Franchement, il est long.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'allais t'en poser comme ça. Justement, j'allais te poser la question sur la durée de vie du jeu.
Alors,
combien de temps à peu près environ?
Alors, pour tout dire, moi, j'ai passé bien 6 heures dessus actuellement.
Ouais.
Dont 2 heures parce que faire le con à prolonger les murs, à taper dans tous les trucs, à mettre des cubes un peu partout pour essayer voir s'il y avait pas un laser caché. Mais en gros, ouais, en gros, en temps de jeu pure découverte, 4 heures à peu près. Mais je pense que de toute façon, j'ai pas encore réussi à finir le jeu parce que je sais plus trop où aller, parce que le jeu ne vous guide pas du tout, encore une fois. À part bien sûr des petits trucs de progression, c'est un peu à la Metroid. C'est-à-dire que en gros, quand vous avez le gun numéro 2, vous retournez dans certaines salles, la capacité du gun numéro 2 vous permet de débloquer une nouvelle porte. Tu vois un peu le genre. Voilà. Mais sinon, ouais, je pense on peut tabler sur si vous êtes quelqu'un qui vous creusez le crâne, et que si vous êtes Einstein, vous finissez le jeu en 3 heures, je pense. Mais comme vous êtes pas Einstein.
Qu'est-ce que tu en sais? Tu en sais nos éditeurs là?
Non. Non, mais quand je dis Einstein, c'est vraiment Einstein. Il faut au moins 190 de QI pour trouver toutes les énigmes du premier coup. Mais si c'est pas le cas, et je pense que ce sera pas le cas, parce que franchement, c'est très compliqué, c'est très très dur. Si c'est le cas, tant mieux, mais ça m'étonnerait pour beaucoup, parce que même les surdoués, je suis pas sûr qu'ils y arrivent du premier coup. Faut tabler sur vraiment 8-10 heures si vous êtes vraiment coincé.
Ouais, j'ai cru que t'allais dire si vous êtes vraiment con.
Non, quand même pas. Je ne me permettrai pas. Non, si vous êtes vraiment coincé sur certaines énigmes, et il y en a, on peut être coincé facile une heure dessus. Facile.
Ouais, donc, et en plus de ça, si tu veux t'amuser à longer les murs, à découvrir tous les trucs secrets, tout ça, revenir dans les anciennes salles...
Tu peux t'aller sur du 15.
Ça peut quand même apporter pas mal de durée de vie en plus, alors.
Ouais, sachant qu'en plus, il y a un peu de difficulté. C'est-à-dire que beaucoup dans les puzzle games, parfois, t'as pas la notion de difficulté, dans le sens où, quand t'as chopé la solution, c'est bon. À part, bien sûr, Portal 2, où ça demande quand même pas mal de dextérité et de timing, pour certaines salles. Mais là, dans Antichamber, en fait, il y a une notion un peu... vous voyez un peu les particules qu'il y a dans... tu vois les particules qu'il y a dans Portal 2.
Oui.
Portal et Portal 2. Et qui t'annulent, en gros, les portails déjà lancés. Là, c'est des particules qui détruisent les cubes que tu as stockés dans ton gun.
Ah ouais, d'accord.
Et sachant que, pour aller dans certaines salles, il te faut... Il te faut, par exemple, il y a une salle où c'est entouré de particules comme ça, et il te faut un cube. T'es là, tu dis, mais comment tu fais? Et en fait, il se trouve que c'est le troisième gun que t'attrapes te permet de faire glisser des cubes à travers ça. Tu vois? Et c'est que des trucs comme ça. Mais même quand t'as compris, si par malheur tu fais mal glisser ton cube, que tu le fais traverser la mauvaise particule, et ben, pouf, le cube disparaît. C'est-à-dire que c'est vraiment, en plus, ça demande un petit soupçon de dextérité. Et même pour débloquer des salles facilement, parfois ça demande de la dextérité parce que ça demande de faire avancer un cube tandis que toi tu marches dessus pour pas tomber tandis qu'il avance, tu vois. C'est des plateformes mouvantes et tu dois bouger avec. Et parfois les cubes se mettent d'un coup à monter en ligne droite et puis toi tu peux pas faire un saut plus haut que 3 cubes et puis tu te retrouves avec un mur de 4 cubes devant toi. Alors il faut que tu te dépêches, etc. Donc parfois t'es un peu... Il y a de la difficulté rendue à cause du gameplay. Mais c'est pas un mauvais gameplay. Hein. C'est un gameplay et il faut juste le prendre en main. C'est de la dextérité.
Et par rapport à ce que tu disais, tu sais, le temps, les 1h30 qui s'écoulent, tout ça, tu es déjà resté jusqu'à ce que ça s'écoule?
En fait, comme je te l'ai dit, là je suis à 6 heures de jeu.
Ah ouais, j'imagine qu'à ce moment-là il se passe quelque chose.
je vais pas le dire, mais... En tout cas, on ne peut pas. Alors, ou alors, c'est peut-être une indication aussi pour les speedrunners, ceux qui voudront le faire rapidement. Mais en tout cas, je vois mal comment on le finit en 1h30.
D'accord. Et toi, tu ce jeu-là, tu comptes le speedrunner?
Speedrunner? Non, parce que moi, je suis déjà sur d'autres jeux, sur un autre jeu actuellement. Mais disons que speedrunner ce genre de jeu, c'est pas forcément très simple pour moi. Vu que jouable à la jouer à la manette un FP quelque chose c'est pas facile. Mais non, parce que bon déjà le jeu moi je te dis j'y joue pour le concept, après je vois pas trop l'intérêt de le speedrunner, mais j'y joue beaucoup pour le concept et pour la découverte. C'est un jeu je pense que je ne referai pas de toute
Tu as
façon.
essayé de longer les murs de la première pièce, peut-être tu peux venir, il y a une porte qui, hop, vous avez fini le jeu.
Eh ben écoute, tu rigoles, mais en fait quand tu lances le jeu, donc tu es en face du menu et derrière toi t'as la porte exit. Mais il se trouve que t'as un mur. Et que cette porte exit, tu la traverses une fois, et il se trouve qu'en fait, c'est pas la vraie porte exit. Il y a une vraie porte exit qui est plus tard, plus loin, etc. Et le jeu se fout de toi constamment comme ça. Genre, la sortie c'est par là, t'y vas, puis tu tombes dans le vide, puis tu retournes à la salle d'entrée.
Ah d'accord, bah c'est bien ce
Voilà.
petit jeu-là. Pour conclure, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus?
Bah pour conclure, jetez-vous dessus si vous êtes du genre à aimer vous jouer avec vos neurones. Sinon, il y a d'autres jeux hein, qui marchent très bien sans le cerveau. Celui-là, si, et ça fait du bien d'en voir un justement de temps en temps qui ne nécessite pas de tuer en masse des Russes, par exemple, pour ne citer que certains jeux, ou alors ou des zombies ou des machins. De temps en temps, voilà, se poser, réfléchir, découvrir. C'est vraiment un jeu découverte.
Et
Voilà.
aussi des fois ne pas réfléchir après une journée de travail qui on a un peu mal à la tête, ça fait du bien aussi. Bah merci pour ce jeu. Nous allons passer donc au point culture. Et le point culture de cette semaine, c'est The Walking Dead, la série.
Put the gun down! Go, go! Rick! He's hit!
You even know what's going on?
I woke up in the hospital. That's all I know.
I was saying on the news, some kind of virus.
Man, you won't believe the panic.
Lori! Carl!
You know about the dead people, right? The walkers.
My wife and son, they're alive.
If they got out of here,
they're in Atlanta.
Why there?
Military protection, shelter, food.
Atlanta sounds like a good deal.
Tiré du comics éponyme Walking Dead, parce que le comics ça s'appelle pas The Walking Dead, ça s'appelle donc juste Walking Dead. Je pense que maintenant vous commencez à entendre un peu beaucoup parler de ce nom. Enfin, le merchandising, disons qu'il est vraiment très très poussé sur cette série, hein. On a des séries, des comics, des jeux vidéo, bientôt des strings, des mouchoirs Walking Dead et je ne sais guère. Alors, est-ce que tu connais la série The Walking Dead?
Oui. Et je tenais à préciser que les, parce qu'il y en a qui vont dire quoi, nana, les comics, il y a des comics qui sont estampillés The Walking Dead. C'est juste une petite précision.
Quand je dis ça, c'est que le comics à la base il s'appelle Walking Dead, le premier.
Ah
Ouais,
oui.
donc
C'est juste qu'après, pour coller à la série, ils ont remis le nom.
voilà. Donc
Voilà, si les, non, mais que les gens voient, s'ils voient The Walking Dead en comics, c'est le bon, hein, vous inquiétez pas, c'est pas autre chose.
tu fais bien de le
C'est
préciser.
pour préciser. Sinon oui, la série, bah, qui ne connaît pas Walking Dead au final, c'est moi je dis chapeau déjà à la série pour une seule chose, c'est qu'ils ont réussi à rendre intéressants les zombies une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'il y a eu George Romero qui a réussi avec les premiers films de zombies vraiment qui valaient le coup. Après il y a eu une extension de zombies, sauce tout ce que vous voulez, les zombies Rising, les zombies à la Resident Evil, les zombies à la Dead Space, les zombies machin. Et là, il y a Walking Dead, et le gars a dit, j'ai oublié son nom tout de suite, Frank Miller, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a dit, ok, eh ben écoutez, moi je vais mettre un monde de zombies, mais je vais pas m'intéresser aux zombies. Frank Miller, j'ai dit n'importe quoi. Celui qui a fait la BD, c'est pas Frank Miller, c'est Robert Kirkman.
Frank Miller, on le connaît pour Batman The Dark Knight Returns.
Mais voilà, non, c'est pas ça. Il a fait aussi, il me semble, 300, etc. Non, non, là, c'est Robert Kirkman.
D'accord. Tu avais dit Frank Miller, j'aurais dû te taper dessus. Donc, avant de faire un petit tour sur le scénario, c'est bien de mettre en contexte pourquoi c'est pas une série qui s'intéresse aux zombies. C'est parce qu'au début, les zombies, quand même, c'est une menace pour le personnage qu'on va suivre durant toute la série. Après, la série se concentre plus sur la situation entre les personnages et le fait que on a des gens qui sont complètement dans un monde en fait post-apocalyptique. Le vrai danger, ce n'est pas les zombies, c'est les êtres humains, comment ils se comportent entre eux quand ils reviennent à l'âge de pierre. Plus on évolue dans la série, plus les zombies, ils savent comment les tuer. Sauf que les humains entre eux, c'est vraiment des chacals, parce que c'est chacun pour sa peau en fait. C'est vraiment une série en fait qui est centrée sur ces personnages plus qu'autre chose. Et moi au début, je me pensais que tu vois, Walking Dead, ça allait être un truc, ouais, encore, voilà, ça veut surfer sur le zombie. Mais finalement, pourquoi ça plaît tant que ça? Parce que c'est différent. Et je trouve que c'est assez bien interprété dans le comics et dans la série. Alors, je voulais faire intervenir un point sur l'histoire. C'est donc Rick Grimes, qui est shérif adjoint dans une petite ville des États-Unis, qui se réveille après un long coma, suite à une altercation avec des voyous. Un peu comme à la 28 jours plus tard, hein. Hop, le monde derrière lui a complètement changé. Il sort dehors, il voit que c'est l'apocalypse, il y a des hélicoptères de l'armée qui sont devant comme ça, il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Bon, il continue son bonhomme chemin, il rentre chez lui, il voit que sa femme et son fils sont plus là. Et là, il croise le premier zombie, et là, il comprend vraiment que c'est la merde pour lui. Au début, il va rencontrer un personnage avec son petit-fils, un black avec son fils qui... Au début, qui va le prendre pour un zombie. Après qu'il va le soigner, qu'il va lui expliquer un peu la situation, que voilà, c'est la fin du monde et tout ça. Et il lui dit que apparemment Atlanta serait sécurisé. Et donc il décide d'aller là-bas. Et ce n'est pas ce qu'il pense, parce que Atlanta c'est pareil, c'est infesté de zombies, tout ça. Et à partir de là, il commence à rejoindre un petit groupe de rescapés. Et après, avec eux, il va commencer à s'entendre et tout ça. Avoir des différends, apprendre à survivre. Et la série, donc, il faut savoir qu'elle est arrivée à la fin de la saison 3, là où j'en parle. Dans le premier épisode dont je parle, c'est vraiment un copier-coller du premier comics Walking Dead. Vraiment une bonne adaptation fidèle. Après, ça diverge un petit peu par rapport à ce qu'il y a dans le comics. Je trouve ça super de pas reprendre le comics bêtement, tu vois, d'adapter chaque page en fait les unes aux autres. Après, c'est sûr qu'il y a certains personnages qui sont pas dans le comics, qui sont dans la série télé. Donc voilà, tu vois, il y a plein de trucs en fait qui font que cette série elle est vraiment pas mal, parce que tu vois, les gens, c'est, comme je te dis, c'est vraiment des gros chiens entre eux, tu vois. Et au début, il y a quand même du racisme qui commence à revenir entre les noirs, les blancs, voilà, tu vois. On voit que les gens sont un petit peu tout le temps sur les nerfs. Après, on a la première partie donc qui se passe dans la ville d'Atlanta, la deuxième partie ça se déroule dans la période de la ferme, et la troisième partie ça se déroule dans une prison. La première partie est vraiment, les six premiers épisodes est vraiment pas mal. La deuxième partie, je la trouve un peu longue. Notamment, ils cherchent pendant pas mal d'épisodes quelqu'un dont je n'aurai pas le nom. Et au final, cette personne était cachée juste devant eux. Tu vois, ouais. Ça tourne un peu en rond pendant cette période-là. Ils ont mis ces épisodes-là, on dirait, pour faire pour allonger la durée de la série, tu vois. La saison 3 partait bien sur le départ. Après, ça fait pareil que sur la saison 2. Il y a des trucs, c'est vraiment sympa, mais on dirait qu'ils ont été obligés de rajouter des choses. Et le deuxième gros point noir que j'ai à dire sur cette série, c'est que au début, comme je disais, les zombies, ils sont super menaçants, tout ça, ils savent pas trop comment les affronter. Quand ils tirent, ils répliquent par dizaines, par centaines. Mais sauf que, après, donc, les zombies ne sont plus vraiment une menace, je trouve. Au début, ça commence bien avec eux, parce qu'ils sont vraiment là, ils te font chier à chaque moment, ils t'es jamais tranquille. Et après, les zombies, c'est limite, ouais, bon, vas-y, je peux, tu vois, la nana, au début, elle avait peur d'eux. Après, elle se balade avec son couteau, elle voit un zombie, elle lui met un coup de couteau, et c'est normal, tu vois, pour en enchaîner deux, trois. Je trouve qu'ils commencent à devenir un peu trop fort. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, je comprends que c'est plus centré sur la psychologie des personnages et tout ça, mais on perd un petit peu de ce qui faisait le sel au début de la série.
Bah, est-ce que tu penses pas que, justement, le côté final, c'est assez logique que les zombies deviennent moins menaçants au fur et à mesure, vu que eux, au fur et à mesure, bah, ils apprennent.
Quand je dis qu'ils sont moins menaçants, c'est même les personnages faibles qui sont dans l'histoire au début, ils passent devant les zombies, ils s'en sortent pas trop mal, tu vois, c'est... On dirait que ça fait je sais pas combien de temps qu'ils connaissent les zombies, ils ont étudié depuis je sais pas combien de temps, alors que ça dans la série, c'est en termes de série, c'est la timeline est assez courte, ouais. Tu vois. C'est vraiment des jouets quoi pour eux, on va dire. Ils passent normal, c'est pas super menaçant. Après c'est les personnages entre eux qui font soit essayer de se faire des coups de crasse, soit ils rencontrent des antagonistes qui ont l'air gentils au début et après en fait c'est vraiment des gros psychopathes. Après même les personnages importants, on croit qu'ils vont rester jusqu'à la conclusion de la série. Bah là non, c'est un personnage d'un épisode à l'autre peut mourir. Et aussi, par rapport à ce qui est psychologie, tout ça, des fois tu ressens un petit peu, quand tu sais que tu vois un personnage qui est mort et tout ça, t'es un peu dégoûté parce que tu l'aimais bien, tu vois. Et tu sais que dans la série, bah tu pourras plus le revoir, parce que voilà, quand il se fait bouffer, bah il se fait péter la gueule par ses potes, et tu vois, ils vont vraiment à contre-cœur, mais ils sont obligés de lui péter la gueule, ils lui éclatent le crâne, sinon il va venir pour essayer de les manger.
Ouais, j'imagine.
Voilà, après c'est une série, moi je la conseille, qui est plutôt bonne, avec les défauts que j'ai cités, mais c'est assez agréable, l'écriture est pas mal. Après, c'est comme je disais, hein, les longueurs, tout ça, ça se distille un petit peu. Mais franchement, c'est plutôt une bonne série. Moi, je l'ai regardé donc la saison 1 et la saison 2 en version française, la saison 3 en VO. Bah alors, comment dire, la VO est largement au-dessus du lot. La version française, la voix de Merle est vraiment à chier. Merle, tu vois, c'est quand même un mec, il a la quarantaine, c'est un pauvre républicain, le mec, il est un peu facho, et dans la voix de Merle, dans la version française, on dirait que c'est un mec de 15 ans, il est là, les mecs, tu vois. Mais à part ça, il y a 2-3 personnes qui sont comme ça, mais sinon, la VF est plutôt bonne. Je dirais pas excellente, elle est plutôt bonne, même si les personnages, on peut en douter un petit peu, les jeux des acteurs, des fois, il est un peu surjoué, notamment Rick Grimm, qui est le personnage principal, hein. Des fois, tu vois, il est là, il doit jouer une émotion, tout ça, mais il est un peu, comment dirais-je, il a un peu du mal. Tu vois, c'est pas très naturel en fait. Mais à part ça, c'est voilà, je vous la conseille. Ah oui, bah tiens, en parlant de Walking Dead, il y a le celui qui est sorti par Activision qui permet de sortir des jeux de merde.
Oui.
Comme The Walking Dead Survival Instinct.
C'est
ça, c'est ça.
Survival Instinct. Non, moi c'est l'autre, le vrai, le bon. Oui. Le meilleur jeu de l'année dernière, pour moi.
Bah le Survival Instinct, ce qui est dommage, c'est que c'est un gros jeu de merde et que bah apparemment la licence fait vendre. Il s'en sort pas trop mal pour un jeu, le pire jeu je pense qu'on a eu en 2013, parce que quand même sur cette génération actuelle de jeux, la qualité des jeux a quand même évolué. On a beaucoup moins de jeux de boost qu'avant. Je me rappelle que sur PlayStation 1 et Nintendo 64 et tout ça, on avait des grosses boosts, mais putain, là on en a beaucoup de moins et ça fait plaisir.
Ouais, mais sinon, je suis sur tête, comme j'ai dit, de Walking Dead, puis je finis sur Antichamber. Pareil, il y aura des vidéos qui suivront avec. Et puis bon, on verra pour les vidéos des speedruns, on verra quand je deviendrai bon.
Bah ouais, mais tu speedrun quoi comme jeu en ce moment?
Rayman 2, The Great Escape sur PC.
D'accord, et ça va, tu t'en sors pas trop mal?
Je commence à me défendre, on va dire ça comme ça.
Bon ben, on attend beaucoup de toi, on espère que tu battras un record du monde, hein, bientôt. Que on a soucis. Besoin de pub là sur GameInfo. Bon allez, ciao à tous.
Salut.
Et à la semaine prochaine.